Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Pour cette dernière émission de novembre 2010, nous céderons la parole à notre sœur Gisèle Évrard de la Fédération Spirit de la province de Liège en Belgique, avec qui nous terminerons la lecture de la Genèse selon le spiritisme. En seconde partie, nous donnerons la parole à notre frère Fabio Furtado, lequel vous propose l'interview d'un membre du Centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles. Pour terminer cette émission, nous commencerons la lecture de l'Évangile selon le spiritisme. Pour émettre des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant, depuis la Belgique, le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg ou tout simplement consulter notre site internet. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Aujourd'hui, notre sœur Gisèle nous invite à terminer la lecture de la Genèse selon le spiritisme. Suite du chapitre 18, les temps sont arrivés, points 26 à 34.
La Genèse selon le spiritisme. Suite du chapitre 18, les temps sont arrivés. Signe des temps, suite. Point 26. Le nombre des retardataires est encore grand, sans doute. Mais que peuvent-ils contre le flot qui monte, sinon y jeter quelques pierres? Ce flot, c'est la génération qui s'élève, tandis qu'eux disparaissent avec la génération qui s'en va chaque jour à grands pas. Jusque-là, ils défendront le terrain pied à pied. Il y a donc une lutte inévitable, mais une lutte inégale, car c'est celle du passé décrépit qui tourbe en lambeaux contre l'avenir juvénile, de la stagnation contre le progrès, de la créature contre la volonté de Dieu, car les temps marqués par lui sont arrivés. La génération nouvelle, point 27. Pour que les hommes soient heureux sur la terre, il faut qu'elle ne soit peuplée que de bons esprits incarnés et désincarnés qui ne voudront que le bien. Ce temps étant arrivé, une grande émigration s'accomplit en ce moment parmi ceux qui l'habitent. Ceux qui font le mal pour le mal et que le sentiment du bien ne touche pas, n'étant plus dignes de la terre transformée, en seront exclus, parce qu'ils y porteraient de nouveau le trouble et la confusion et seraient un obstacle au progrès. Ils iront expier leur endurcissement, les uns dans des mondes inférieurs, les autres chez des races terrestres arriérées qui seront l'équivalent de mondes inférieurs, où ils porteront leurs connaissances acquises et qu'ils auront pour mission de faire avancer. Ils seront remplacés par des esprits meilleurs qui feront régner entre eux la justice, la paix, la fraternité. La terre, au dire des esprits, ne doit point être transformée par un cataclysme qui anéantirait subitement une génération. La génération actuelle disparaîtra graduellement, et la nouvelle lui succédera de même sans que rien soit changé à l'ordre naturel des choses. Tout se passera donc extérieurement comme d'habitude, avec cette seule différence, mais cette différence est capitale, qu'une partie des esprits qui s'y incarnaient ne s'y incarneront plus. Dans un enfant qui naîtra, au lieu d'un esprit arriéré et porté au mal, qui s'y serait incarné, ce sera un esprit plus avancé et porté au bien. Il s'agit donc bien moins d'une nouvelle génération corporelle que d'une nouvelle génération d'esprit. C'est dans ce sens, sans doute, que l'entendait Jésus quand il disait « Je vous dis en vérité que cette génération ne passera pas sans que ses faits soient accomplis. » Ainsi, ceux qui s'attendraient à voir la transformation s'opérer par des effets surnaturels et merveilleux seront déçus. Point 28. L'époque actuelle est celle de la transmission. Les éléments des deux générations se confondent. Placés au point intermédiaire, nous assistons au départ de l'une et à l'arrivée de l'autre, et chacune se signale déjà dans le monde par les caractères qui lui sont propres. Les deux générations qui se succèdent ont des idées et des vues tout opposées. À la nature des dispositions morales, mais surtout des dispositions intuitives et innées, il est facile de distinguer à laquelle des deux appartient chaque individu. La nouvelle génération, devant fonder l'ère du progrès moral, se distingue par une intelligence et une raison généralement précoces, jointes au sentiment inné du bien et des croyances spiritualistes, ce qui est le signe indubitable d'un certain degré d'avancement antérieur. Elle ne sera point composée exclusivement d'esprits éminemment supérieurs, mais de ceux qui, ayant déjà progressé, sont prédisposés à s'assimiler toutes les idées progressives et aptes à seconder le mouvement régénérateur. Ce qui distingue au contraire les esprits arriérés, c'est d'abord la révolte contre Dieu par le refus de reconnaître aucune puissance supérieure à l'humanité. La propension instinctive aux passions dégradantes, aux sentiments antifraternels de l'égoïsme, de l'orgueil, de l'envie, de la jalousie. Enfin, l'attachement pour tout ce qui est matériel, la sensualité, la cupidité, l'avarice. Ce sont ces vices dont la terre doit être purgée par l'éloignement de ceux qui refusent de s'amender, parce qu'ils sont incompatibles avec le règne de la fraternité et que les hommes de bien souffriront toujours de leur contact. Lorsque la terre en sera délivrée, les hommes marcheront sans entrave vers l'avenir meilleur qui leur est réservé dès ici-bas, pour prix de leurs efforts et de leur persévérance, en attendant qu'une épuration encore plus complète leur ouvre l'entrée des mondes supérieurs. Point 29. Par cette émigration des esprits, il ne faut pas entendre que tous les esprits retardataires seront expulsés de la terre et relégués dans les mondes inférieurs. Beaucoup, au contraire, y reviendront, car beaucoup ont cédé à l'entraînement de circonstances et de l'exemple. L'écorce était chez eux plus mauvaise que le fond. Une fois soustraits à l'influence de la matière et des préjugés du monde corporel, la plupart verront les choses d'une manière toute différente que de leur vivant, ainsi que nous en avons de nombreux exemples. En cela, ils sont aidés par les esprits bienveillants qui s'intéressent à eux et s'empressent de les éclairer et de leur montrer la fausse route qu'ils ont suivie. Par nos prières et nos exhortations, nous pouvons nous-mêmes contribuer à leur amélioration, parce qu'il y a solidarité perpétuelle entre les morts et les vivants. La manière dont s'opère la transformation est fort simple, et comme on le voit, elle est toute morale et ne s'écarte en rien des lois de la nature. Point 30. Que les esprits de la nouvelle génération soient de nouveaux esprits meilleurs, or les anciens esprits améliorés, le résultat est le même. Dès l'instant qu'ils apportent de meilleures dispositions, c'est toujours un renouvellement. Les esprits incarnés forment ainsi deux catégories, selon leurs dispositions naturelles. D'une part, les esprits retardataires qui partent, de l'autre, les esprits progressifs qui arrivent. L'état des mœurs et de la société sera donc chez un peuple, chez une race ou dans le monde entier, en raison de celle des deux catégories qui aura la prépondérance. Point 31. Une comparaison vulgaire fera mieux comprendre encore ce qui se passe en cette circonstance. Supposons un régiment composé en grande majorité d'hommes turbulents et indisciplinés. Ceux-ci y porteront sans cesse un désordre que la sévérité de la loi pénale aura souvent de la peine à réprimer. Ces hommes sont les plus forts parce qu'ils sont les plus nombreux. Ils se soutiennent, s'encouragent et se stimulent par l'exemple. Les quelques bons sont sans influence. Leurs conseils sont méprisés. Ils sont bafoués, maltraités par les autres et souffrent de ce contact. N'est-ce pas là l'image de la société actuelle? Supposons qu'on retire ces hommes du régiment un par un, 10 par 10, 100 par 100, et qu'on les remplace à mesure par un nombre égal de bons soldats, même par ceux qui ont été expulsés, mais qui se seront sérieusement amendés. Au bout de quelque temps, on aura toujours le même régiment, mais transformé. Le bon ordre y aura succédé au désordre. Ainsi en sera-t-il de l'humanité régénérée. Point 32. Les grands départs collectifs n'ont pas seulement pour but d'activer les sorties, mais de transformer plus rapidement l'esprit de la masse en la débarrassant des mauvaises influences et de donner plus d'ascendant aux idées nouvelles. C'est parce que beaucoup, malgré leurs imperfections, sont mûrs pour cette transformation que beaucoup partent afin d'aller se retremper à une source plus pure. Tant qu'ils seraient restés dans le même milieu et sous les mêmes influences, ils auraient persisté dans leurs opinions et dans leur manière de voir les choses. Un séjour dans le monde des esprits suffit pour leur dessiller les yeux, parce qu'ils y voient ce qu'ils ne pouvaient pas voir sur la terre. L'incrédule, le fanatique, l'absolutiste pourront donc revenir avec des idées innées de foi, de tolérance et de liberté. À leur retour, ils trouveront les choses changées et subiront l'ascendant du nouveau milieu où ils seront nés. Au lieu de faire de l'opposition aux idées nouvelles, ils en seront des auxiliaires. Point 33. La régénération de l'humanité n'a donc pas absolument besoin du renouvellement intégral des esprits. Il suffit d'une modification dans leur disposition morale. Cette modification s'opère chez tous ceux qui y sont prédisposés, lorsqu'ils sont soustraits à l'influence pernicieuse du monde. Ceux qui reviennent alors ne sont pas toujours d'autres esprits, mais souvent les mêmes esprits pensant et sentant autrement. Lorsque cette amélioration est isolée et individuelle, elle passe inaperçue et elle est sans influence ostensible sur le monde. Tout autre est l'effet lorsqu'elle s'opère simultanément sur de grandes masses, car alors, selon les proportions, en une génération, les idées d'un peuple ou d'une race peuvent être profondément modifiées. C'est ce qu'on remarque presque toujours après les grandes secousses qui déciment les populations. Les fléaux destructeurs ne détruisent que le corps, mais n'atteignent pas l'esprit. Ils activent le mouvement de va-et-vient entre le monde corporel et le monde spirituel, et par suite le mouvement progressif des esprits incarnés et désincarnés. Il est à remarquer qu'à toutes les époques de l'histoire, les grandes crises sociales ont été suivies d'une ère de progrès. Point 34. C'est un de ces mouvements généraux qui s'opère en ce moment et qui doit amener le remaniement de l'humanité. La multiplicité des causes de destruction est un signe caractéristique des temps, car elles doivent hâter l'éclosion des nouveaux germes. Ce sont les feuilles d'automne qui tombent et auxquelles succéderont de nouvelles feuilles pleines de vie. Car l'humanité a ses saisons, comme les individus ont leur âge. Les feuilles mortes de l'humanité tombent emportées par les rafales et les coups de vent, mais pour renaître plus vivaces sous le même souffle de vie qui ne s'éteint pas, mais se purifie. Point 35. Pour le matérialiste, les fléaux destructeurs sont des calamités sans compensation, sans résultat utile puisque, selon lui, ils anéantissent les êtres sans retour. Mais pour celui qui sait que la mort ne détruit que l'enveloppe, ils n'ont pas les mêmes conséquences, ils ne lui causent pas le moindre effroi. Il en comprend le but, et il sait aussi que les hommes ne perdent pas plus à mourir ensemble qu'à mourir isolément, puisque, de manière ou d'autre, il faut toujours en arriver là. Les incrédules riront de ces choses et les traiteront de chimères. Mais, quoi qu'ils disent, ils n'échapperont pas à la loi commune. Ils tomberont à leur tour comme les autres, et alors, qu'adviendra-t-il d'eux? Ils disent « rien », mais ils vivront en dépit d'eux-mêmes et seront un jour forcés d'ouvrir les yeux. Fin du livre de la Genèse selon le spiritisme.
Donc bonsoir, aujourd'hui nous sommes au CESAC, le centre spirit Alain Kardec de Bruxelles. Je suis avec Dominique. Donc Dominique est un ami qui en a connu au CESAC, qu'il vient de temps en temps dans les causeries. Et donc, je voudrais aujourd'hui parler un peu avec lui. Donc, d'abord, je voudrais savoir comment est-ce que tu as trouvé la doctrine spirite dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu as décidé d'étudier un jour Allan Kardec, par exemple? Quel est ton parcours, en fait?
Mais en fait, le parcours, il est spirituel. J'étais à la recherche... une recherche spirituelle personnelle qui m'a mené dans pas mal de domaines et qui ma voie, je vais dire, dans laquelle je me sens le mieux, c'est celle que j'ai choisie actuellement. Donc c'est le centre spirit, puisque en fait le centre spirit aide à une réforme intime, ce qui est nécessaire pour pouvoir évoluer, puisque nous sommes, c'est ce que j'ai pu trouver comme enseignement, nous sommes ici sur Terre pour pouvoir évoluer. Donc, de ce fait-là, disons que comme on est ici pour évoluer, il fallait que je mette en pratique toutes mes connaissances que j'ai acquises d'ailleurs depuis tout jeune, et que c'est ça qui m'a appris à vouloir évoluer. Et disons que le centre spirit était le moyen le plus efficace pour pouvoir évoluer.
Ça va. Et mais ça fait combien de temps que tu participes déjà, donc ici au CESAC de Bruxelles? Combien de temps est-ce que ça fait que tu participes aux causeries, aux études?
Mais ça fait à peu près 8 mois, 8, entre 8 mois et 9 mois que je participe non seulement aux causeries, mais également je viens aux cours où là c'est la réforme intime que nous travaillons. Et depuis que j'ai suivi ces cours, je me sens d'ailleurs beaucoup mieux.
Et tu as quel âge, Dominique?
Mais j'ai 46 ans.
Et ça fait longtemps que tu es intéressé à la spiritualité?
Mais disons que c'est depuis tout jeune, hein, que je m'intéresse à la spiritualité, dans le sens où j'avais un ami qui, lui, étudiait tout ce qui était hindou. Donc, il avait beaucoup de connaissances en ce domaine, et j'ai tout d'ailleurs, de toute façon, été toujours attiré par tout ce qui était spirituel, depuis tout petit d'ailleurs, je pense. Et disons que c'est ce qui m'a fait que j'ai voulu évoluer.
Et est-ce que tes parents, ils ont, tu crois qu'ils ont une interférence dans ton parcours spirituel ou tu as décidé tout seul? Comment est-ce que ça s'est passé?
Non, en fait, c'est une démarche personnelle. Disons que mes parents et mes grands-parents étaient très catholiques, puisque d'ailleurs j'ai même été au catholicisme, j'ai fait ma petite communion, ma grande communion, j'étais enfant de cœur également, mais disons qu'à part cela, j'ai été scout d'ailleurs également, et louveteau, et dans ces mouvements, nous avions déjà des petits enseignements à gauche et à droite, on nous a projeté par exemple un film de la Vierge Marie, etc., où on montre les miracles et tout. Et donc ça m'avait fort interpellé, et voilà.
Donc on pourrait dire vraiment que tu es un chrétien de base.
Oui, disons que chrétien de base, oui, j'ai un enseignement de base en tout cas, et cet enseignement de base, je voulais le faire évoluer, parce que bon, on est quand même ici pour évoluer. Donc il fallait que je trouve un moyen de pouvoir me faire non seulement aider, mais en même temps être plus proche de la réalité et pour pouvoir acquérir cette réforme intime.
Donc Dominique, je voudrais savoir par rapport à tes études personnelles que tu fais à la maison, ça veut dire dehors dans un centre spirit, qu'est-ce que tu études pour le moment?
Actuellement, là, j'étudie le livre des médiums, parce que il apparaît que, en tout cas, selon les dires de pas mal de personnes, nous avons tous, à quelque niveau que ce soit, une certaine sensibilité, et donc tout le monde est apte à devenir médium. Donc là, actuellement, je suis un livre donc d'Allan Kardec, où on étudie, je vais dire, la médiumnité. C'est d'ailleurs le livre qui s'appelle Les médiums.
Donc, merci beaucoup Dominique. On est maintenant à la fin de notre interview. Je voudrais savoir si tu puisses laisser pour nous un message à tous les auditeurs de Radio Kardec.
Oui, en fait, ceux qui seraient intéressés à progresser dans leur vie personnelle, je leur conseille, disons, de suivre ça dans une école qui peut vous aider à travailler tout ce qui est interne à vous et tout ce qui est. Il vous enseigne en fait aussi d'être à l'écoute de soi-même et de s'ouvrir au monde extérieur et de le voir différemment et de, je veux dire, de le confronter différemment de la façon dont on pense à l'heure actuelle, puisque c'est ce qui est, je vais dire, étudié dans l'Évangile, qu'on ne met d'ailleurs rarement en pratique, parce que la vie que nous menons actuellement est une vie fort matérialiste et fort individualiste, et je pense que c'est dans le sens inverse que nous devons aller. Et c'est ça qui d'ailleurs qui peut nous aider à pouvoir progresser. Donc, et c'est bel et bien la voie qu'il faut suivre, en tout cas pour ma part.
Bon, merci beaucoup Dominique.
Oui, merci à vous de m'avoir interviewé.
Lors de nos prochaines émissions, nous aurons le plaisir de vous présenter une nouvelle séquence qui sera consacrée aux enseignements d'André Luys. Celle-ci sera animée par notre très respectable frère Pierre-Étienne G., à qui nous devons les traductions du portugais en français des œuvres de notre bien-aimé frère Francisco Cândido Xavier, bien connu de tous. En guise de test, il vous parlera aujourd'hui du chapitre 21 de nos solars, notre demeure. Un extrait de quelques minutes, mais qui présente déjà toute l'importance de l'enseignement que nous réserve cet esprit.
Ces paroles me causaient une vive impression. C'était la première fois dans la colonie que j'entendais quelqu'un se référer aux incarnations antérieures. « Laura, m'exclamai-je, l'interrompant, permettez-moi une parenthèse. Pardonnez ma curiosité, mais jusqu'à présent, je n'ai encore pas pu prendre connaissance de manière plus profonde de mon passé spirituel. Ne suis-je pas débarrassé des liens physiques? N'ai-je pas traversé la rivière de la mort? Vous êtes-vous souvenu du passé tout de suite après votre venue, ou vous a-t-il fallu attendre le concours du temps ?»« J'ai dû attendre, répliqua-t-elle souriante. Avant tout, il est indispensable que nous nous dépouillions des impressions physiques. Les écailles de l'infériorité sont très tenaces. Un grand équilibre est nécessaire afin que nous puissions nous souvenir de manière profitable. En général, nous avons tous commis d'importantes erreurs dans les cycles de la vie éternelle. Qui se souvient du crime perpétré se sentira l'être le plus infortuné de l'univers, et qui se souvient du crime dont il a été victime se considérera de la même manière comme un être malheureux. Ainsi, seule l'âme qui est très sûre d'elle-même reçoit spontanément de tels souvenirs. Les autres sont dûment contrôlés en ce qui concerne le domaine des réminiscences, et si elles tentent de tromper ce dispositif de la loi, il n'est pas rare de les voir se laisser aller au déséquilibre ou à la folie. « Mais vous êtes-vous souvenu du passé de manière naturelle ?» demandai-je. « Je m'explique, » répondit-elle avec bonté. « Quand ma vision intérieure s'éclaircit, de vagues souvenirs me causèrent d'importantes perturbations, coïncidentes avec le même état d'âme que partageait mon mari. Nous décidâmes tous deux de consulter l'assistant Longobardo. Cet ami, après un minutieux examen de nos impressions, nous orienta vers les magnétiseurs du ministère de l'éclaircissement. Reçus avec chaleur, nous avons eu, en premier lieu, accès à la section des archives où nous avons tous des rapports nous concernant. Les techniciens de ce ministère nous invitèrent à lire nos propres mémoires, recouvrant une période de 3 siècles, pendant 2 ans, sans causer de préjudice à nos travaux de l'aide. Le chef du service de la mémoire ne nous permit pas la lecture de phases antérieures, nous déclarant incapables de supporter les souvenirs correspondant à d'autres époques. Et il a suffi de la lecture pour que vous puissiez vous sentir en possession des souvenirs ? Lui demandai-je curieux. Non, la lecture informe seulement. Après une longue période de méditation pour notre propre éveil, et avec une surprise indescriptible, nous avons été soumis à des opérations psychiques bien particulières, visant à pénétrer les domaines émotionnels des souvenirs. Les esprits techniciens de ce secteur nous appliquèrent des passes sur le cerveau, réveillant certaines énergies endormies. Ricardo et moi étions alors maîtres de 300 années d'une mémoire complète. Nous avons alors compris combien était grand notre débit envers les organisations de la planète. Et où se trouve notre frère Ricardo ? Comme j'aimerais faire sa connaissance, m'exclamai-je en proie à une forte impression.
Le mouvement spirit francophone a le grand plaisir de vous inviter à suivre une toute nouvelle lecture, celle de l'Évangile selon le spiritisme. Nous ne sommes pas encore en possession de l'identité de notre nouvelle lectrice, une omission qui sera rectifiée lors de notre prochaine émission.
L'Évangile selon le spiritisme. Préface. Les esprits du Seigneur, qui sont les vertus des cieux, comme une immense armée qui s'ébranle dès qu'elle en a reçu le commandement, se répandent sur toute la surface de la terre. Semblables à des étoiles qui tombent du ciel, ils viennent éclairer la route et ouvrir les yeux des aveugles. Je vous le dis en vérité, les temps sont arrivés où toutes choses doivent être établies dans leur sens véritable pour dissiper les ténèbres, confondre les orgueilleux et glorifier les justes. Les grandes voix du ciel retentissent comme le son de la trompette, et les cœurs des anges s'assemblent. Homme, nous vous convions au divin concert, que vos mains saisissent la lyre, que vos voix s'unissent, et qu'en un hymne sacré, elles s'étendent et vibrent d'un bout de l'univers à l'autre. Homme, frère que nous aimons, nous sommes près de vous. Aimez-vous aussi les uns les autres, et dites du fond de votre cœur, en faisant les volontés du Père qui est au ciel, « Seigneur, Seigneur, et vous pourrez entrer dans le royaume des cieux. » L'Esprit de vérité. Note. L'instruction ci-dessus, transmise par voie médianimique, résume à la fois le véritable caractère du spiritisme et le but de cet ouvrage. C'est pourquoi elle est placée ici comme préface. Introduction. Titre. But de cet ouvrage. On peut diviser les matières contenues dans les évangiles en cinq parties. Les actes ordinaires de la vie du Christ, les miracles, les prédictions, les paroles qui ont servi à l'établissement des dogmes de l'Église et l'enseignement moral. Si les quatre premières parties ont été l'objet de controverses, la dernière est demeurée inattaquable. Devant ce code divin, l'incrédulité elle-même s'incline. C'est le terrain où tous les cultes peuvent se rencontrer, le drapeau sous lequel tous peuvent s'abriter, quelle que soit leur croyance, car elle n'a jamais fait le sujet des disputes religieuses, toujours et partout soulevée par les questions de dogme. En les discutant, d'ailleurs, les sectes y eussent trouvé leur propre condamnation, car la plupart se sont plus attachés à la partie mystique qu'à la partie morale, qui exige la réforme de soi-même. Pour les hommes en particulier, c'est une règle de conduite embrassant toutes les circonstances de la vie privée ou publique. Le principe de tous les rapports sociaux fondés sur la plus rigoureuse justice. C'est enfin, et par-dessus tout, la route infaillible du bonheur à venir, un coin du voile levé sur la vie future. C'est cette partie qui fait l'objet exclusif de cet ouvrage. Tout le monde admire la morale évangélique. Chacun en proclame la sublimité et la nécessité. Mais beaucoup le font de confiance sur ce qu'ils en ont entendu dire ou sur la foi de quelques maximes devenues proverbiales. Mais peu la connaissent à fond, moins encore la comprennent et savent en déduire les conséquences. La raison en est, en grande partie, dans la difficulté que présente la lecture de l'Évangile, inintelligible pour le plus grand nombre. La forme allégorique, le mysticisme intentionnel du langage, font que la plupart le lisent par acquis, de conscience et par devoir, comme ils lisent les prières sans les comprendre, c'est-à-dire sans fruit. Les préceptes de morale, disséminés çà et là, confondus dans la masse des autres récits, passent inaperçus. Il devient alors impossible d'en saisir l'ensemble et d'en faire l'objet d'une lecture et d'une méditation séparées. On a fait, il est vrai, des traités de morale évangélique, mais l'arrangement en style littéraire moderne leur ôte la naïveté primitive qui en fait à la fois le charme et l'authenticité. Il en est de même des maximes détachées, réduites à leur plus simple expression proverbiale. Ce ne sont plus alors que des aphorismes qui perdent une partie de leur valeur et de leur intérêt par l'absence des accessoires et des circonstances dans lesquelles ils ont été donnés. Pour obvier à ces inconvénients, nous avons réuni dans cet ouvrage les articles qui peuvent constituer, à proprement parler, un code de morale universelle, sans distinction de culte. Dans les citations, nous avons conservé tout ce qui était utile au développement de la pensée, n'élaguant que les choses étrangères au sujet. Nous avons, en outre, scrupuleusement respecté la traduction originale de ceci, ainsi que la division par verset. Mais, au lieu de nous attacher à un ordre chronologique impossible et sans avantage réel dans un pareil sujet, les maximes ont été groupées et classées méthodiquement selon leur nature, de manière à ce qu'elles se déduisent autant que possible les unes des autres. Le rappel des numéros d'ordre des chapitres et des versets permet de recourir à la classification vulgaire si on le juge à propos. Ce n'était là qu'un travail matériel qui, seul, n'eût été que d'une utilité secondaire. L'essentiel était de le mettre à la portée de tous par l'explication des passages obscurs et le développement de toutes les conséquences en vue de l'application aux différentes positions de la vie. C'est ce que nous avons essayé de faire avec l'aide des bons esprits qui nous assistent. Beaucoup de points de l'Évangile, de la Bible et des auteurs sacrés en général ne sont inintelligibles, beaucoup même ne paraissent irrationnels que faute de la clé pour en comprendre le véritable sens. Cette clé est tout entière dans le spiritisme, ainsi qu'ont déjà pu s'en convaincre ceux qui l'ont étudié sérieusement, et ainsi qu'on le reconnaîtra mieux encore plus tard. Le spiritisme se retrouve partout dans l'Antiquité et à tous les âges de l'humanité. Partout on en trouve des traces dans les écrits, dans les croyances et sur les monuments. C'est pour cela que, s'il ouvre des horizons nouveaux pour l'avenir, il jette une lumière non moins vive sur les mystères du passé. Comme complément de chaque précepte, nous avons ajouté quelques instructions choisies parmi celles qui ont été dictées par les esprits en divers pays et par l'entremise de différents médiums. Si ces instructions fussent sorties d'une source unique, elles auraient pu subir une influence personnelle ou celle du milieu, tandis que la diversité d'origine prouve que les esprits donnent leur enseignement partout et qu'il n'y a personne de privilégié sous ce rapport. Nous aurions pu, sans doute, donner sur chaque sujet un plus grand nombre de communications obtenues dans une multitude d'autres villes et centres spirites que ceux que nous citons, mais nous avons dû avant tout éviter la monotonie des répétitions inutiles et limiter notre choix à celles qui, pour le fond et pour la forme, rentrait plus spécialement dans le cadre de cet ouvrage, réservant pour des publications ultérieures celles qui n'ont pu trouver place ici. Quant au médium, nous nous sommes abstenus d'en nommer aucun. Pour la plupart, c'est sur leur demande qu'ils n'ont pas été désignés, et dès lors, il ne convenait pas de faire des exceptions. Les noms des médiums n'auraient d'ailleurs ajouté aucune valeur à l'œuvre des esprits. Ce n'eût donc été qu'une satisfaction d'amour-propre à laquelle les médiums vraiment sérieux ne tiennent nullement. Ils comprennent que, leur rôle étant purement passif, la valeur des communications ne rehausse en rien leur mérite personnel, et qu'il serait puéril de tirer vanité d'un travail d'intelligence auquel on ne prête qu'un concours mécanique. Cet ouvrage est à l'usage de tout le monde. Chacun peut y puiser les moyens de conformer sa conduite à la morale du Christ. Les spirites y trouveront en outre les applications qui les concernent plus spécialement. Grâce aux communications établies désormais d'une manière permanente entre les hommes et le monde invisible, la loi évangélique, enseignée à toutes les nations par les esprits eux-mêmes, ne sera plus une lettre morte, parce que chacun la comprendra et sera incessamment sollicité de la mettre en pratique par les conseils de ses guides spirituels. Les instructions des esprits sont véritablement les voies du ciel qui viennent éclairer les hommes et les convient à la pratique de l'Évangile. Titre: Autorité de la doctrine spirite. Contrôle universel de l'enseignement des esprits. Si la doctrine spirite était une conception purement humaine, elle n'aurait pour garant que les lumières de celui qui l'aurait conçue. Or, personne, ici-bas, ne saurait avoir la prétention fondée de posséder à lui seul la vérité absolue. Si les esprits qui l'ont révélée se fussent manifestés à un seul homme, rien n'en garantirait l'origine, car il faudrait croire sur parole celui qui dirait avoir reçu leur enseignement. En admettant de sa part une parfaite sincérité, tout au plus pourrait-il convaincre les personnes de son entourage. Il pourrait avoir des sectaires, mais il ne parviendrait jamais à rallier tout le monde. Dieu a voulu que la nouvelle révélation arrivât aux hommes par une voie plus rapide et plus authentique. C'est pourquoi il a chargé les esprits d'aller la porter d'un pôle à l'autre, en se manifestant partout, sans donner à personne le privilège exclusif d'entendre leurs paroles. Un homme peut être abusé, peut s'abuser lui-même. Il n'en saurait être ainsi quand des millions voient et entendent la même chose. C'est une garantie pour chacun et pour tous. D'ailleurs, on peut faire disparaître un homme, on ne fait pas disparaître des masses. On peut brûler les livres, mais on ne peut brûler les esprits. Or, brûlât-on tous les livres, la source de la doctrine n'en serait pas moins intarissable. Par cela même qu'elle n'est pas sur la terre, qu'elle surgit de partout et que chacun peut y puiser. À défaut des hommes pour la répandre, il y aura toujours les esprits qui atteignent tout le monde et que personne ne peut atteindre. Ce sont donc en réalité les esprits qui font eux-mêmes la propagande à l'aide des innombrables médiums qu'ils suscitent de tous les côtés. S'ils n'avaient eu qu'un interprète unique, quelque favorisé qu'il fût, le spiritisme serait à peine connu. Cet interprète lui-même, à quelque classe qu'il appartient, eût été l'objet de prévention de la part de beaucoup de gens. Toutes les nations ne l'eussent pas accepté, tandis que les esprits, se communiquant partout, à tous les peuples, à toutes les sectes et à tous les partis, sont acceptés par tous. Le spiritisme n'a pas de nationalité. Il est en dehors de tous les cultes particuliers. Il n'est imposé par aucune classe de la société, puisque chacun peut recevoir des instructions de ses parents et de ses amis d'outre-tombe. Il fallait qu'il en fût ainsi pour qu'il pût appeler tous les hommes à la fraternité. S'il ne se fût pas placé sur un terrain neutre, il aurait maintenu la dissension au lieu de les apaiser. Cette universalité dans l'enseignement des esprits fait la force du spiritisme. Là aussi est la cause de sa propagation si rapide. Tandis que la voix d'un seul homme, même avec le secours de l'imprimerie, eût mis des siècles avant de parvenir à l'oreille de tous, voilà que des milliers de voix se font entendre simultanément sur tous les points de la terre pour proclamer les mêmes principes et les transmettre aux plus ignorants comme aux plus savants, afin que personne ne soit déshérité. C'est un avantage dont n'a joui aucune des doctrines qui ont paru jusqu'à ce jour. Si donc le spiritisme est une vérité, il ne craint ni le mauvais vouloir des hommes, ni les révolutions morales, ni les révolutions morales, ni les bouleversements physiques du globe, parce qu'aucune de ces choses ne peut atteindre les esprits. Mais ce n'est pas le seul avantage qui résulte de cette position exceptionnelle. Le spiritisme y trouve une garantie toute puissante contre les schismes que pourrait susciter soit l'ambition de quelques-uns, soit les contradictions de certains esprits. Ces contradictions sont assurément un écueil, mais qui portent en soi le remède à côté du mal. On sait que les esprits, par suite de la différence qui existe dans leurs capacités, sont loin d'être individuellement en possession de toute la vérité, qu'il n'est pas donné à tous de pénétrer certains mystères, que leur savoir est proportionné à leur épuration, que les esprits vulgaires n'en savent pas plus que les hommes et moins que certains hommes, qu'il y a parmi eux, comme parmi ces derniers, des présomptueux et des faux savants qui croient savoir ce qu'ils ne savent pas, des systématiques qui prennent leur idée pour la vérité, enfin que les esprits de l'ordre le plus élevé, ceux qui sont complètement dématérialisés, ont seuls dépouillé les idées et les préjugés terrestres. Mais on sait aussi que les esprits trompeurs ne se font pas scrupule de s'abriter sous des noms d'emprunt pour faire accepter leurs utopies. Il en résulte que, pour tout ce qui est en dehors de l'enseignement exclusivement moral, les révélations que chacun peut obtenir ont un caractère individuel sans authenticité, qu'elles doivent être considérées comme des opinions personnelles de tel ou tel esprit, et qu'il y aurait imprudence à les accepter et à les promulguer légèrement comme des vérités absolues. Le premier contrôle est sans contredit celui de la raison, auquel il faut soumettre, sans exception, tout ce qui vient des esprits. toute théorie en contradiction manifeste avec le bon sens, avec une logique rigoureuse et avec les données positives que l'on possède, de quelque nom respectable qu'elles soient signées, doit être rejetée. Mais ce contrôle est incomplet dans beaucoup de cas, par suite de l'insuffisance des lumières de certaines personnes et de la tendance de beaucoup à prendre leur propre jugement pour unique arbitre de la vérité. En pareil cas, que font les hommes qui n'ont pas en eux-mêmes une confiance absolue? Ils prennent l'avis du plus grand nombre, et l'opinion de la majorité est leur guide. Ainsi doit-il en être à l'égard de l'enseignement des esprits, qui nous en fournissent eux-mêmes les moyens. La concordance dans l'enseignement des esprits est donc le meilleur contrôle, mais il faut encore qu'elle ait lieu dans certaines conditions. La moins sûre de toutes, c'est lorsqu'un médium interroge lui-même plusieurs esprits sur un point douteux. Il est bien évident que, s'il est sous l'empire d'une obsession, ou s'il a affaire à un esprit trompeur, cet esprit peut lui dire la même chose sous des noms différents. Il n'y a pas non plus une garantie suffisante dans la conformité qu'on peut obtenir par les médiums d'un seul centre, parce qu'ils peuvent subir la même influence. La seule garantie sérieuse de l'enseignement des esprits est dans la concordance qui existe entre les révélations faites spontanément, par l'entremise d'un grand nombre de médiums étrangers les uns aux autres et dans diverses contrées. On conçoit qu'il ne s'agit point ici des communications relatives à des intérêts secondaires, mais de ce qui se rattache au principe même de la doctrine. L'expérience prouve que lorsqu'un principe nouveau doit recevoir sa solution, il est enseigné spontanément sur différents points à la fois et d'une manière identique, sinon pour la forme, du moins pour le fond. Si donc il plaît à un esprit de formuler un système excentrique basé sur ses seules idées et en dehors de la vérité, on peut être certain que ce système restera circonscrit et tombera devant l'unanimité des instructions données partout ailleurs, ainsi qu'on en a déjà eu plusieurs exemples. C'est cette unanimité qui a fait tomber tous les systèmes partiels éclos à l'origine du spiritisme, alors que chacun expliquait les phénomènes à sa manière, et avant qu'on ait connu les lois qui régissent les rapports du monde visible et du monde invisible. Telle est la base sur laquelle nous nous appuyons quand nous formulons un principe de la doctrine. Ce n'est pas parce qu'il est selon nos idées que nous le donnons comme vrai. Nous ne nous posons nullement en arbitre suprême de la vérité, et nous ne disons à personne « Croyez telle chose parce que nous vous le disons ». Notre opinion n'est à nos propres yeux qu'une opinion personnelle qui peut être juste ou fausse, parce que nous ne sommes pas plus infaillibles qu'un autre. Ce n'est pas non plus parce qu'un principe nous est enseigné qu'il est pour nous la vérité, mais parce qu'il a reçu la sanction de la concordance. Dans notre position, recevant les communications de près de 1000 centres spirites sérieux, disséminés sur les divers points du globe, nous sommes à même de voir les principes sur lesquels cette concordance s'établit. C'est cette observation qui nous a guidés jusqu'à ce jour, et c'est également celle qui nous guidera dans les nouveaux champs que le spiritisme est appelé à explorer. C'est ainsi qu'en étudiant attentivement les communications venues de divers côtés, tant de la France que de l'étranger, nous reconnaissons, à la nature toute spéciale des révélations, qu'il y a tendance à entrer dans une nouvelle voie et que le moment est venu de faire un pas en avant. Ces révélations, parfois faites à mots couverts, ont souvent passé inaperçus pour beaucoup de ceux qui les ont obtenus. Beaucoup d'autres ont cru les avoir seuls. Prises isolément, elles seraient pour nous sans valeur. La coïncidence seule leur donne de la gravité. Puis, quand le moment est venu de les livrer au grand jour de la publicité, chacun alors se rappelle avoir reçu des instructions dans le même sens. C'est ce mouvement général que nous observons, que nous étudions avec l'assistance de nos guides spirituels et qui nous aide à juger de l'opportunité qu'il y a pour nous de faire une chose ou de nous abstenir. Ce contrôle universel est une garantie pour l'unité future du spiritisme et annulera toutes les théories contradictoires. C'est là que, dans l'avenir, on cherchera le critérium de la vérité. Ce qui a fait le succès de la doctrine formulée dans le livre des esprits et dans le livre des médiums, c'est que, partout, chacun a pu recevoir directement des esprits la confirmation de ce qu'il renferme. Si, de toutes parts, les esprits fussent venus les contredire, ces livres auraient depuis longtemps subi le sort de toutes les conceptions fantastiques. L'appui même de la presse ne les eût pas sauvés du naufrage, tandis que, privés de cet appui, ils n'en ont pas moins fait un chemin rapide, parce qu'ils ont eu celui des esprits, dont le bon vouloir a compensé, et au-delà, le mauvais vouloir des hommes. Ainsi en sera-t-il de toutes les idées émanant des esprits ou des hommes qui ne pourraient supporter l'épreuve de ce contrôle, dont personne ne peut contester la puissance. Supposons donc qu'il plaise à certains esprits de dicter, sous un titre quelconque, un livre en sens contraire. Supposons même que, dans une intention hostile et en vue de discréditer la doctrine, la malveillance suscita des communications apocryphes. Quelle influence pourraient avoir ces écrits, s'ils sont démentis de tous côtés par les esprits? C'est de l'adhésion de ces derniers qu'il faudrait s'assurer avant de lancer un système en leur nom. Du système d'un seul à celui de tous, il y a la distance de l'unité à l'infini. Que peuvent même tous les arguments des détracteurs sur l'opinion des masses, quand des millions de voix amies parties de l'espace viennent de tous les coins de l'univers et, dans le sein de chaque famille, les battre en brèche? L'expérience, sous ce rapport, n'a-t-elle pas déjà confirmé la théorie? Que sont devenues toutes ces publications qui devaient, soi-disant, anéantir le spiritisme? Quelle est celle qui n'en a seulement arrêté la marche? Jusqu'à ce jour, on n'avait pas envisagé la question sous ce point de vue, l'un des plus graves, sans contredit, chacun a compté sur soi, mais sans compter avec les esprits. Le principe de la concordance est encore une garantie contre les altérations que pourraient faire subir au spiritisme les sectes qui voudraient s'en emparer à leur profit et l'accommoder à leur guise. Quiconque tenterait de le faire dévier de son but providentiel échouerait, par la raison bien simple que les esprits, par l'universalité de leur enseignement, feront tomber toute modification qui s'écarterait de la vérité. Il ressort de tout ceci une vérité capitale, c'est que quiconque voudrait se mettre à la traverse du courant d'idées établi et sanctionné pourrait bien causer une petite perturbation locale et momentanée, mais jamais dominer l'ensemble, même dans le présent et encore moins dans l'avenir. Il en ressort de plus que les instructions données par les esprits sur les points de la doctrine non encore élucidés ne sauraient faire la loi, tant qu'elles ressortent isolées, qu'elles ne doivent par conséquent être acceptées que sous toute réserve et à titre de renseignement. De là la nécessité d'apporter à leur publication la plus grande prudence et, dans le cas où l'on croirait devoir les publier, il importe de ne les présenter que comme des opinions individuelles, plus ou moins probables, mais ayant, dans tous les cas, besoin de confirmation. C'est cette confirmation qu'il faut attendre avant de présenter un principe comme vérité absolue, si l'on ne veut être accusé de légèreté ou de crédulité irréfléchie. Les esprits supérieurs procèdent dans leur révélation avec une extrême sagesse. Ils n'abordent les grandes questions de la doctrine que graduellement, à mesure que l'intelligence est apte à comprendre des vérités d'un ordre plus élevé, et que les circonstances sont propices pour l'émission d'une idée nouvelle. C'est pourquoi, dès le commencement, ils n'ont pas tout dit, et n'ont pas encore tout dit aujourd'hui. Ne cédant jamais à l'impatience des gens trop pressés, qui veulent cueillir les fruits avant leur maturité. Il serait donc superflu de vouloir devancer le temps assigné à chaque chose par la Providence. Car alors, les esprits vraiment sérieux refusent positivement leur concours, mais les esprits légers, se souciant peu de la vérité, répondent à tout. C'est pour cette raison que, sur toutes les questions prématurées, il y a toujours des réponses contradictoires. Les principes ci-dessus ne sont point le fait d'une théorie personnelle, mais la conséquence forcée des conditions dans lesquelles les esprits se manifestent. Il est bien évident que, si un esprit dit une chose d'un côté, tandis que des millions d'esprits disent le contraire ailleurs, la présomption de vérité ne peut être pour celui qui est seul ou à peu près de son avis. Or, prétendre avoir seule raison contre tous serait aussi illogique de la part d'un esprit que de la part des hommes. Les esprits vraiment sages, s'ils ne se sentent pas suffisamment éclairés sur une question, ne la tranchent jamais d'une manière absolue. Ils déclarent ne la traiter qu'à leur point de vue et conseillent eux-mêmes d'en attendre la confirmation. Quelque grande, belle et juste que soit une idée, il est impossible qu'elle rallie dès le début toutes les opinions. Les conflits qui en résultent sont la conséquence inévitable du mouvement qui s'opère. Ils sont même nécessaires pour mieux faire ressortir la vérité, et il est utile qu'ils aient lieu au commencement pour que les idées fausses soient plus promptement usées. Les spirites qui en concevaient quelques craintes doivent donc être parfaitement rassurés. Toutes les prétentions isolées tomberont, par la force des choses, devant le grand et puissant critérium du contrôle universel. Ce n'est pas à l'opinion d'un homme qu'on se ralliera, c'est à la voix unanime des esprits. Ce n'est pas un homme, pas plus nous qu'un autre, qui fondera l'orthodoxie spirite. Ce n'est pas non plus un esprit venant s'imposer à qui que ce soit. C'est l'universalité des esprits se communiquant sur toute la terre par l'ordre de Dieu. Là est le caractère essentiel de la doctrine spirite. Là est sa force. Là est son autorité. Dieu a voulu que sa loi fût assise sur une base inébranlable. C'est pourquoi il ne l'a pas fait reposer sur la tête fragile d'un seul. C'est devant ce puissant aéropage qui ne connaît ni les coteries, ni les rivalités jalouses, ni les sectes, ni les nations, que viendront se briser toutes les oppositions, toutes les ambitions, toutes les prétentions suprématie individuelle. Que nous nous briserons nous-mêmes si nous voulions substituer nos propres idées à ces décrets souverains. C'est lui seul qui tranchera toutes les questions litigieuses, qui fera taire les dissidences et donnera tort ou raison à qui de droit, devant cet imposant accord de toutes les voies du ciel que peut l'opinion d'un homme ou d'un esprit. Moins que la goutte d'eau qui se perd dans l'océan, moins que la voix de l'enfant étouffée par la tempête. L'opinion universelle, voilà donc le juge suprême, celui qui prononce en dernier ressort. Elle se forme de toutes les opinions individuelles. Si l'une d'elles est vraie, elle n'a que son poids relatif dans la balance. Si elle est fausse, elle ne peut l'emporter sur toutes les autres. Dans cet immense concours, les individualités s'effacent et c'est là un nouvel échec pour l'orgueil humain. Cet ensemble harmonieux se dessine déjà. Or, ce siècle ne passera pas qu'il ne resplendisse de tout son éclat, de manière à fixer toutes les incertitudes, car d'ici là des voix puissantes auront reçu mission de se faire entendre pour rallier les hommes sous le même drapeau, dès que le champ sera suffisamment labouré. En attendant, celui qui flotterait entre deux systèmes opposés peut observer dans quel sens se forme l'opinion générale. C'est l'indice certain du sens dans lequel se prononce la majorité des esprits sur les divers points où ils se communiquent. C'est un signe non moins certain de celui des deux systèmes qui l'emportera.
Avis aux personnes et associations. Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirite. Vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirite et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirit dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante, Union Spirit Belge 43 rue Maguin à 4000 Liège ou par courriel usb@spirit.be. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.